Hi, Dave, this is Heidi.
Heidi au micro. Oui, je ne peux pas utiliser sur cela, je suis sur Skype. Donc pas de problème.
Okay, good evening, everyone.
Très bien, bonjour à toutes et à tous. Ça dépend où vous trouvez sur le globe. Bonjour ou bonsoir. Merci beaucoup d'être venu. Je sais que il est tard, il est déjà 17 heures ici à Singapour et je sais que le gala est ce soir, que nous serons très heureux de nous y rendre. Et nous avons néanmoins un sujet important dont nous devons parler. Je m'appelle Evan Libovitch, je suis vice-président de l'ALAC. Je suis basé à Toronto, au Canada, et je serai votre hôte aujourd'hui. Lorsque nous parlons des GTLD et des noms de domaine, et ainsi de suite, parfois, on ne pense pas des approches alternatives qui permettraient d'obtenir les informations que l'on désire sur l'Internet. Et donc, cette séance est une introduction à ces mécanismes, une introduction à ces différents termes de référence. Nous aurons des intervenants aujourd'hui. Patrick Folstrom n'est pas là parce que c'est une journée très occupée pour lui. Mais je suis très heureux que vous ayez choisi de venir ici et que nous pourrons néanmoins nous informer les uns les autres de ces mécanismes de dénomination différents, alternatifs. Nous n'avons pas de transparent. Nous avons deux présentateurs et nous avons des transparents pour le deuxième intervenant. En premier, d'Amérique du Nord, où on est au milieu de la nuit en Amérique du Nord. Dave Pescatello, vice-président pour la sécurité et la stabilité de l'ICANN. Il va nous donner une petite introduction et nous parler des différents concepts. Allez-y, Dave. Pas de transparent pour cette présentation. Écoutez tout simplement. Oui, merci, Evan. Oui, nous vous entendons avec un petit peu de difficulté, peut-être. Je vais commencer par dire que cette présentation, j'ai dormi quelques heures, puisque je suis en Amérique du Nord, mais ce que j'aimerais faire, c'est commencer à parler un petit peu de ces noms de substitution au DNS et revenir en 2006 pour parler de ce que la SAC avait effectué à l'époque. Et j'aimerais tout d'abord dire que peut-être poser des questions auxquelles vous pourriez répondre. Il n'y a que, nous sommes que deux personnes cet après-midi. Peut-être que nous entendrons Kars Boen. J'espère que vous apprécierez plus tard votre gala. Vous pouvez poser des questions. Nous pouvons simplifier un petit peu la séance. Donc, toujours Dave Pizzitello, vice-président de la sécurité et coordination de technologie de l'information et de la communication, TIC. À la base, nous avons plusieurs noms qui sont mis en contexte. Et nous avons le DNS public qui permet aux personnes d'assigner des noms, d'affecter des noms et des noms d'utilisateurs qui sont plus à propos que les adresses pour les différentes ressources sur l'Internet, pour les différents serveurs. Donc, un des besoins pour avoir ces noms, c'est qu'ils doivent être gérés. Il y a une administration globale qui doit être faite. Nous avons un système d'identification, des identifiants. Et au niveau d'une gouvernance mondiale, cela pose de grands problèmes. Donc nous avons eu beaucoup différents de systèmes de noms de domaine depuis les années même 70. Nous avons eu différents systèmes d'opération, TetNet, SNA, Xerox PARC, XNS, et tous ces noms d'espace n'étaient pas obligatoirement utilisés. Mais il y avait certains critères pour l'utilisation de ces noms de domaine, pour ces différents scénarios. Et lorsqu'on a commencé à utiliser le DNS au milieu des années 1980, nous avons établi un système de délégation des noms. Nous avions ces noms de domaine génériques, comme nous les appelons, et nous avons identifié ensuite des différents noms d'espace utilisés par des pays, les CCTLD. Et d'ici la fin des années 90, des personnes avaient des noms internationalisés. Et la racine a connu une grande expansion. Dans le cadre des nouveaux TLD, nous sommes donc aux environs des années 2000. Et en 2006, j'ai fait un rapport pour la SAC, le 009, le rapport 009 de la SAC, justement sur ces noms de substitution au DNS, substitution possible. Et le SAC a parlé donc de ce concept. Pourquoi utiliser des noms autres que le DNS? C'était des mécanismes de dénomination différents qui permettent d'éviter les collisions de noms qui existent parfois sur l'Internet. Et ce qu'on essaie de résoudre comme problème, c'est un véritable désir de changer le contrôle administratif. Lorsqu'il y a délégation de l'administration d'un nom de domaine, si vous regardez SAC 009, eh bien vous avez des alternatives commerciales. Et il y en avait qui étaient en signe de protestation politique, pratiquement. Et il y a de cela 8-9 ans, on utilisait des systèmes un petit peu similaires. Donc pourquoi avoir aujourd'hui des noms de substitution au DNS, substituer au DNS, peut-être pour donc éviter ces collisions de noms. Pour avoir un peu plus de possibilités administratives pour gérer ces noms de domaine. Il s'agit de questions d'étiquetage de noms de domaine. pour les GTDLD. Donc, vous pouvez résoudre certains problèmes avec cette approche. Et lorsque vous allez écouter Garth, et lorsque nous allons passer aux questions, donc, quels sont les problèmes que vous essayez de résoudre? Quelles sont les conséquences, les avantages de ce système alternatif? En 2006, on pensait que dans certains cas, il y avait un sacrifice qui était fait. Il y avait moins de capacités, moins de fonctionnalités. C'était parfois moins pratique. Ça dépend des navigateurs qu'on utilisait, des applications qu'on utilisait. Lorsque l'on crée des noms d'espace, il y a une certaine balkanisation qui se produit. Et donc, lorsque l'on sacrifie un petit peu cela, un autre aspect important, lorsque vous êtes dans le DNS public, vous allez faire des suppositions et quel impact allez-vous avoir? Quelles conséquences non anticipées allez-vous obtenir? Si vous ne pouvez pas contrôler et avoir une séparation totale des noms de domaine dans une organisation, et une autre supposition que vous allez faire dans le cadre des termes de référence, quelle protection allez-vous obtenir avec les termes de référence? Quelle raison vont être pour les connexions avec différentes hôtes? Et par exemple, lorsque il y a un système de cryptage, et c'est une dernière chose dont j'aimerais parler, parce que moi je fais partie de l'équipe sécurité, et j'ai certaines inquiétudes au niveau du système actuel du DNS, l'utilisation par des criminels, l'utilisation du DNS par des malfaiteurs et des cybercriminels. Il me semble que il faut prendre en compte ces inquiétudes qui existent, les changements au DNS. Et lorsque il y aura d'autres utilisateurs, d'autres applications à l'avenir qui vont exister, quelle sera la visibilité de tout cela? C'est donc tout à fait essentiel. Je crois que l'évolution de l'utilisation de l'Internet va être très marquée dans les années à venir. À une époque, nous n'avions pas le DNS, donc demain, nous aurons autre chose. Et nous avons adapté nos produits. Et je crois que le DNS ne va plus suffire, sera peut-être moins important demain. Donc, c'est les questions que j'aimerais lancer pour le débat. Et je vais redonner la parole à Garth. Oui, merci. Sans aucun doute, nous avons donné la parole à Garth Brun, qui est président du NARALO et membre de l'ALAC, qui travaille avec acharnement à cela, aux questions de conformité qui se posent. Et nous allons lui donner la parole. C'est pour le moment Evan Lebovitch au micro. Nous avons des transparents qui vont être projetés. J'espère que nous allons pouvoir les voir. Oui, merci Gisela. Premier transparent. Pourquoi cette séance? On a déjà eu des informations intéressantes de Dave Pichitello. Alors, pourquoi cette séance? Cela prête déjà à confusion. Une nouvelle fois, je suis Garth Brun, président du NARALO, et j'ai demandé à ce que l'on fasse une séance de ce type parce qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez à l'ICAM. Il y a des systèmes dont on ne parle pas à l'ICAM parce que les structures dont on parle aujourd'hui ne sont pas opérationnellement du domaine de l'ICAN. Il y a plusieurs raisons pour cela, on peut en parler. Il est important de savoir qu'elles existent, ces autres systèmes, qui ne font pas partie des contrats de l'ICAN. Ce n'est pas bon ou mauvais, mais c'est simplement des faits que j'aimerais présenter. Donc, nous devons créer des politiques, nous devons prendre des décisions informées et nous devons prendre et créer des politiques solides. Il faut prendre des décisions et nous devons savoir qu'il y a des centaines de systèmes de noms de domaines, des systèmes de dénomination qui existent. Donc, il y a des personnes qui pensent que c'est des menaces, qu'on doit les ignorer. On peut parler de cela. Si on voit un besoin pour d'autres systèmes, est-ce que l'ICAN devrait l'ignorer ou est-ce que l'ICAN devrait vraiment essayer d'atteindre tout le monde? Donc, conceptuellement, voilà à quoi cela ressemble. Le DNS, c'est là où travaille l'ICAN. Ce n'est pas tout l'Internet. C'est une toute petite partie de l'Internet. Vous avez tout un espace de l'Internet et des protocoles Internet. Et vous avez une petite partie avec du contenu qui est encore plus petit, qui est intégré au DNS. Vous voyez à quoi cela ressemble. Donc, qu'est-ce qui se passe dans tout cet espace Internet, protocole Internet? Eh bien, c'est extrêmement intéressant de se poser la question. Trois points d'autres structures, des domaines sans points. Nous avons d'autres systèmes de racines. Il y a plus de 400 TLD qui ne sont pas ICAN qui existent. Il pourrait y en avoir plus. C'est les seuls que je connaisse. Il se peut très bien qu'il y en ait plus. Ils ont été publiés, ils ont été découverts, on en a parlé, on a analysé cela. Il y a deux personnes ou un groupe de personnes qui peuvent créer leur propre TLD et avoir leur propre protocole pour se parler. Personne ne va le savoir, mais ça peut se faire. Ça peut exister, par exemple, la racine cesidienne, plus de 100 TLD, space.name, plus de 90 TLD, new.net, qui ont... je ne sais pas quel est le statut de cette poursuite judiciaire contre l'ICAN. Et il y a New Nations, OpenNIC... Il y avait des anciens qui n'existent plus, comme EDNS, Hyperdome, Alternic, OpenRSC. Alors, des différentes raisons pour ces systèmes de nom de domaine alternatifs. Il y avait plusieurs raisons. Pour .space, c'était la concurrence. Pour les consommateurs qui se sentaient restreints par l'ICAN. Point Cécidio pour l'indépendance politique, c'est une entité souveraine qui va avoir son propre nom de domaine et répondre à personne. Point Bit, c'est économique, c'est le Bitcoin, c'est utilisé pour les paiements par Bitcoin, par cette monnaie alternative, cette monnaie virtuelle qui existe de plus en plus. Point Jack, ça, c'était en mesure de protestation. Lorsqu'ils ont lu le travail qui avait été fait par le groupe de travail sur le réseau, en 2000, on nous a parlé de racines alternatives. Et point Jack, et on dit, eh bien, nous allons nous lancer. Et nous avons point Pirate, qui est interdit, qui a été créé pour vraiment faire des télédarchements sans censure. Donc, la SAC a parlé de cela, des domaines sans points. C'est ça ce que ça veut dire. Hein. C'est un domaine qui n'a pas d'extension, qui n'a pas de point comme point net. Comment ça peut marcher, allez-vous me dire? Il faut ce point. Eh bien, une table, une adresse Internet protocole, il n'y a pas besoin de points. L'ARPANET, les nodes de l'ARPANET n'avaient pas de points. Les noms existaient avant que l'on lance ce système de noms de domaine avec des points. Donc, les domaines Tor, ce n'est pas exactement un DNS. Tor n'est pas un système de noms de domaine. C'est différent. Donc, ce sont des identificateurs de sites uniques qui sont appelés des domaines, mais qui ne peuvent pas atteindre, qui ne peuvent pas être atteints par le DNS, par le système de nom de domaine. Ce sont des services cachés en quelque sorte. Par exemple, .onion, qui peuvent être utilisés seulement du navigateur Tor. Donc c'est comme à l'ancienne avec ces fichiers hôtes que nous avions. Donc Tor, ce n'est pas pour la dénomination. Tor, c'est un système qui permet d'ajouter des couches pour le routage, pour l'obscurité du trafic, pour l'anonymité. On ne voit pas l'origine, on ne voit pas la destination. Dans l'Internet, on trouve la voie la plus rapide possible pour que la communication soit facile. Tor, au contraire, c'est des déviations très nombreuses. Voilà à quoi ressemble le routage par Tor. Voilà comment Tor fonctionne. Cela crée des routes beaucoup plus longues, des voies beaucoup plus longues pour cacher un petit peu les différents points et la manière dont on va d'un point à un autre. Et vous pouvez l'imaginer, ça va pas très vite, c'est très lent. Donc c'est très obscur, c'est anonyme, mais ce n'est pas rapide comme notre DNS que nous connaissons. La question se pose, est-ce que c'est seulement pour les criminels? On en parle beaucoup de cela. On parle du marché noir, de la route de la soie, entre guillemets, Silk Road. Là, en effet, on utilise souvent dans la communauté Tor cela. Mais Tor n'est pas utilisé que par des criminels, loin de là. Parce que les criminels utilisent très souvent le DNS. Il y a des activistes, des journalistes, des victimes, des personnes, des forces de l'ordre qui veulent être anonymes, qui utilisent Tor. Tor est un logiciel et une collectivité, une communauté. J'ai rencontré des personnes du projet Tor et j'aurais demandé un petit peu ce qu'ils pensaient, qu'est-ce que je peux dire sur Tor. C'est une communauté avec des personnes. Il y a un logiciel, il y a un réseau, il y a des donations, il y a des bénévoles. Ils n'ont pas l'intention de remplacer le DNS, mais ils veulent utiliser des logiciels source ouverte et ils veulent beaucoup d'anonymité pour différentes raisons. Donc les problèmes que cela pose, ça c'est un aperçu très rapide de Tor, c'est vraiment très complexe, hein. Il y a des problèmes qui se posent. Cela prête à confusion pour les consommateurs. Il y a des collisions de noms qui peuvent exister. Lorsque nous avons les TLD, les noms de domaine qui sont similaires. Lorsque parfois c'est l'utilisateur qui a un problème, ou alors c'est un problème technique. Il y a des problèmes juridiques. Il y a eu, je crois, des poursuites judiciaires à ce niveau. Et la création d'un système alternatif avec les propres TLD, ils nous disent que les GTDLT violent des noms Tor. Donc, question de poursuite judiciaire contre l'ICANN, question de sécurité qui se pose, question de gouvernance qui se pose. Alors, est-ce que c'est une force? Est-ce que c'est une faiblesse, ces systèmes alternatifs? Avec ces systèmes alternatifs, il n'y a pas d'échange d'argent. Tout est gratuit. Il n'y a pas de coût pour ces domaines. Ils ne coûtent rien, comme par exemple avec le router de The Onion. Il n'y a pas d'archivage des propriétaires. Cela peut être inquiétant pour les personnes qui veulent lutter contre la criminalité. Mais ils peuvent avoir leur propre système Whois s'ils le désirent. il y a la question de responsabilité, qui est responsable. Est-ce qu'il y a une résilience dans ce système? Est-ce qu'il y a des questions de sécurité qui peuvent se poser? Donc nous avons des problèmes complexes, nous, au niveau du DNS, dans notre DNS officiel. Mais au moins, on a des entités, on a un forum où on parle à l'ICANN, et cela n'existe pas obligatoirement dans les systèmes alternatifs. Donc, la grande question qui se pose, on parle de ce modèle, un monde, un seul monde, un Internet. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce qu'on peut arrêter ces systèmes alternatifs? Je crois que ce sont des questions qu'il faut se poser. Est-ce que il serait nécessaire, même possible, d'arrêter un système alternatif? Est-ce que c'est innovant? Est-ce que ce sont des imitations? Qu'en sera-t-il dans 10 ans? Est-ce que ces domaines compteront dans 10 ans? On ne le sait pas. Est-ce qu'ils seront remplacés par une couche supplémentaire qui sera plus efficace pour les utilisateurs finaux? Toutes ces questions se posent. Est-ce qu'ils vont rester dans plusieurs années? C'est le système du style Tor. Donc, c'est la question que je voudrais poser, que je voudrais lancer. Merci beaucoup, Garth, de cette présentation intéressante. Nous allons maintenant passer aux questions et réponses. Veuillez, s'il vous plaît, vous identifier avant de prendre la parole. Parlez lentement et clairement. Et nous sommes interprétés en 3 langues actuellement. Et si vous voulez parler en chinois, en français ou en espagnol, c'est tout à fait possible. Il y a beaucoup de casques et d'émetteurs, récepteurs à votre disposition, du matériel pour l'interprétation simultanée, mais j'aimerais donc commencer par poser une question. Personnellement, ce que j'aimerais savoir, dit Ivan Lebovitch, le vice-président de l'ALAC, l'accessibilité. On a entendu parler de problèmes de GTD-LD qui ne sont pas accessibles avec certains navigateurs. Et est-ce que ça peut être plus difficile d'utiliser ces systèmes alternatifs? Est-ce qu'ils limitent l'accessibilité à certains sites? Est-ce qu'ils sont difficiles d'utilisation?
Garth Bruin. Tout dépend de la configuration des logiciels, mais certains des packages d'Internet qui existent accèdent à tous les systèmes. C'est intéressant. Dave prend la parole. Une des choses... Il y a un problème de son, on entend très mal Dave. Une des choses qui a été découverte il y a 7 ans, c'est que la façon dont la plupart des systèmes fonctionnent, dit Dave Piscitello, dans le DNS, requiert une préconfiguration, une espèce de requête au niveau du DNS. Et je pense que dans tous les cas, de tous les cas que j'ai examinés, nous n'avons pas ce type d'arrangement que tous les systèmes qui fonctionnent de manière commerciale au sein d'IANA, en termes de coordination dans le système opératif, commence la façon dont ces systèmes commencent. Eh bien, nous avons Alan et ensuite Eduardo qui veulent prendre la parole. Merci. Alan Greenberg prend la parole. Deux commentaires. D'abord, pour répondre à la dernière question de Garth, pour savoir ce qui sera là dans 10 ans avec le système de DNS actuel, il y a une période qui peut être longue au niveau des changements technologiques. Le temps que cela prend de démontrer quelque chose dans un laboratoire, par exemple. Hein, c'est une question d'années. Et il y a des choses qui apparaissent plus rapidement, mais ce n'est pas le cas de beaucoup de choses. Cela signifie que lorsque l'on essaye de prédire ce que seront les choses dans 5 ou 6 ans, ces choses-là, on peut dire qu'elles fonctionnent déjà. Hein, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui va continuer à fonctionner. Hein. Je ne sais pas si le DNS sera encore en fonctionnement dans 5 ou 6 ans. Le monde est beaucoup trop complexe et c'est trop difficile de prédire. Il y a trop de variables qui entrent en jeu. Pour voir un petit peu, pour analyser certaines choses qui ont leur propre fonctionnement, et il suffit de regarder Tor, mais il y a aussi Skype. Hein? Une fois que Microsoft l'a repris, il a été utilisé sur le système de mobile et il a commencé à avoir sa propre évolution, son propre développement. Le Skype a commencé à passer d'un réseau, a eu la possibilité de passer d'un réseau à l'autre, et il est devenu, il a utilisé son propre système de nommage à l'extérieur du DNS. Et donc, une chose courante qu'on utilise toutes et tous, mais qui ne représente pas une menace pour nous, c'est le Skype, par exemple. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui sont des choses qui sont potentiellement dangereuses. Et si tout le monde essaye de construire son propre système de Skype et arrête d'utiliser le DNS, on va avoir de gros problèmes. Mais il y a certaines personnes qui le font et qui le font soigneusement, sans trop d'erreurs. Et à ce moment-là, ça fonctionne. Bien. Allez-y, Dave. Il me semble que lorsque l'on considère la façon dont les noms de domaine étaient utilisés dans les années 90, 99, si on regarde maintenant comment on les utilise sur des appareils portables, systèmes mobiles, on utilise la voix et qui permettent de faire des recherches et qui, par exemple, en cliquant sur ICANN, sur un appareil mobile, on peut dire que l'on a déjà un système, un moteur de recherche, qu'on avait déjà ce moteur de recherche et que ce moteur de recherche utilise une langue naturelle. Un nom de domaine peut paraître comme une marque. Et sur un appareil mobile aujourd'hui, sur PC aujourd'hui, on peut utiliser ces mêmes systèmes. Donc je pense qu'il y a ici une révolution et il faut être sensible à certains changements qui ont lieu dans le domaine, sur le marché, au niveau des noms de domaine. Et donc si l'on pense à ce qu'est l'Internet aujourd'hui, à son infrastructure, la chose la plus importante qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que il ne faut pas confondre les différents systèmes qu'il y a sur le web actuellement. Donc, une des premières choses qu'il nous faut penser, c'est si c'est une discussion à propos de ce qu'est le nom de domaine et de ce qu'il signifie, s'il est articulé et s'il y a une meilleure façon d'analyser cela, dans la mesure où le nom de domaine est de plus en plus intégré dans les différents systèmes, selon le type de recherche que l'on veut faire sur Internet. Et quel est le rôle que joue ICANN ou quel est le rôle que joue la communauté multipartite dans l'administration de ce type d'espace? On peut aussi se poser cette question. Bien. Ensuite, nous avons Eduardo. Merci, Evan. C'est Eduardo. J'ai une question à propos du réseau Tor en lui-même et sur sa relation par rapport à la possibilité de faire de l'espionnage sur Internet. Est-ce que on peut faire de l'espionnage avec ce réseau Tor, par exemple? Excusez-moi, j'étais en train de parler avec Gisela. Est-ce que vous pouvez répéter, Eduardo? Oui, Garth, c'est Eduardo. Lorsque on parle d'espionnage sur Internet, est-ce que les réseaux Tor sont inclus? Ça peut inclure n'importe quoi d'abord. Hein? C'est une histoire complexe parce que le gouvernement américain a créé des Tor. C'était créé dans un laboratoire de l'armée marine, de la marine, et je pense que on a une réponse vraiment très spécifique. C'est une réponse. Deux choses. On dit qu'on a récemment découvert certaines choses. Je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec des ingénieurs seniors en 1995, donc il y a 19 ans de cela, et on parlait de ce qu'était le principal hubs aux États-Unis, May East, May West, et chacun d'entre eux avait un gros câble qui était utilisé pour capturer tout le trafic pour le gouvernement, pour capter tout ce trafic pour le gouvernement. Alors, pour répondre à votre question spécifique, ça fonctionne sur le réseau IP. Il est visible, c'est visible sur nos navigateurs. Et la question est de savoir dans quelle mesure ça peut reconnaître le trafic et le décoder. Mais je pense que oui. Je pense que nous devons être un peu plus précis si l'on parle de Tor. Il y a eu des diapos très explicites de la NSA qui montrent que la NSA ne peut pas suivre ce trafic. Et donc, on suppose qu'il y a eu des implantations directes dans les vieilles versions de Firefox. Et on a essayé donc de cibler les utilisateurs de Tor, mais ce n'était pas un groupe important. Et avant que le patch apparaisse, c'était déjà l'équipe de Tor avait déjà son propre patch. Donc l'Agence de sécurité nationale est assez lente et c'est très difficile de rompre l'action de ces Tor. Il y a une attaque au cours de laquelle l'Agence de sécurité nationale a essayé de couvrir l'ensemble du réseau et en faisant une attaque pour voir d'où venait le trafic et pour voir s'il pouvait donc réduire ou situer l'endroit où se trouvaient les utilisateurs. Et nous ne pensons pas qu'il ait la possibilité de le faire actuellement. Donc on peut dire que si l'on veut être anonyme sur l'Internet, Tor est la meilleure option. Et excusez-moi, c'est Evan, mais je pense qu'il faut aussi tenir compte du fait que dans le passé, il y a eu un moment où l'Agence de sécurité nationale nous disait qu'il ne faisait rien, et en réalité, il faisait quelque chose. Donc, ce que vous dites, c'est que c'est pas seulement parce que, disons que l'Agence de sécurité nationale dit qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose, mais on n'est pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'on puisse les croire. Je reviendrai sur ce point. L'agence de sécurité ne nous dit pas cela. On l'a constaté. C'est des fuites. Et je voudrais réagir aussi ou répondre à ce qui a été dit à propos de l'argent investi dans les Tor et qui a été développé dans les laboratoires de l'armée. Ça a été développé par une organisation qui est autre chose, qui est fondée. C'est pas du tout créé par les militaires. Les militaires n'avaient rien à voir dans tout cela. Ça a toujours été en open source et basé sur les protocoles de meilleures pratiques. Donc attention, il ne faut pas insinuer quelque chose qui n'est pas vrai. C'est Dave qui reprend la parole. Je ne veux pas dire que je ne suis pas d'accord avec vous pour savoir si l'Agence de sécurité nationale peut ou pas décrypter ses Tor. Mais je dirais que les services de force de l'ordre et les gens cherchent des occasions Et l'année dernière avec le FBI, et ils ont fait des recherches sur ce réseau Tor. Ils ont trouvé un cas d'abus d'enfants, et donc je pense qu'il y a une série de choses qui sont conflictuelles ici lorsque l'on parle des personnes qui surveillent les Tor en temps réel. Et lorsque l'on parle de la possibilité de réduire ces encryptages de Tor, les Tor, comme ils sont anonymes, non. Il n'y a pas de processus actif pour bloquer. Il n'y a pas d'agence de civile ou d'agence de force de l'ordre qui puisse le faire. Et donc, on est anonyme et tout le monde l'est aussi. Le trafic est encrypté. Et donc, c'est un grand défi, ou c'est presque impossible en tout cas de décrypter cela. Et par ailleurs, il faut s'assurer que le DNS n'est pas le seul système. Et donc, c'est tout à fait, théoriquement, c'est presque impossible de le faire aujourd'hui. Très bien, merci Dave. La prochaine question déposée par un monsieur. Identifiez-vous. Je suis Warren Comory. Je suis arrivée en retard, donc j'ai perdu une partie de la conversation, mais en ce qui concerne une des préoccupation que nous avons, c'est le DNS. Si l'on envoie des emails et que quelqu'un n'a pas avec ce système, il y a un travail que moi-même et M. Sullivan, nous avons rédigé au niveau de l'ITF pour essayer de trouver des façons d'atténuer ces problèmes en utilisant ce qu'on appelle le DNS et point name. Est-ce que lorsque les personnes utilisent cela dans un contexte non DNS, on suggère que une étiquette soit réservée pour quand il s'agit d'un espace de ultimate name, lorsqu'on utilise un système de ultimate name. On va mettre une étiquette à la fin pour montrer que c'est différent d'un contexte DNS. Et donc, c'est un TLD dont il donne le nom. Si quelqu'un veut me poser des questions sur ce point-là, venez me voir, je vous donnerai davantage de détails. Si vous avez accès à Adobe Connect, vous pouvez donner la possibilité à quelqu'un de mettre ce lien sur le chat. Comme ça, nous pouvons donner la possibilité aux gens d'accéder à ce lien. Bien, nous avons maintenant Garth Bruin et Gisela Gruber qui va lire quelque chose sur la salle Adobe Connect. Bien, pour revenir à un point concernant la sécurité de Tor et les questions du public, est-ce que vous avez des préoccupations concernant la sécurité d'Exit Notes? Il y a eu plusieurs documents théoriques qui ont été faits, des recherches aussi, qui pouvaient donc engager cette exit node, les menaces qui existaient. Il est clair que le trafic à l'intérieur du réseau Tor est encrypté entre les nodes, mais n'est pas encrypté du node de sortie, à partir du node de sortie. Et donc, il est possible pour les forces de l'ordre de suivre ce node et de capturer par conséquent le trafic. Mais il serait quand même difficile de revenir à la source du trafic. Donc, il ne sera pas impossible d'avoir un système pour suivre ce trafic, mais il serait difficile de trouver la source de ce trafic. Il faudra utiliser un système de navigateur. C'est pour ça que le navigateur Tor et rend les choses encore plus difficiles. Donc oui, c'est un problème, mais pas obligatoirement et pour le DNS. Pour un réseau end-to-end, pour un réseau Tor end-to-end, les personnes, la personne qui est directement à côté de toi le sait. Dave, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à cela? Non, je crois que on a dit plus ou moins tout ce que on savait sur ce que je savais sur le Tor. Maintenant, nous allons donner la parole à Gisela qui va lire un commentaire. Et donc, dans la salle Adobe, d'un participant en ligne, on a une question de Pumjit, membre de NCUC de Thaïlande. Je serais curieux de savoir quelle application de chat est actuellement plus sûre pour l'utilisateur et ou pour les activistes et journalistes, notamment pour les activistes qui doivent travailler et vivre dans une crise politique tendue. Je ne suis pas sûre que ce soit totalement applicable à ce sujet. Mais si quelqu'un a une recommandation, on peut remettre ça sur le chatroom dans la salle de bavardage et revoir cela. Je sais que j'ai une série de points de vue, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres gens qui en ont aussi. Donc, si vous avez quelque chose, mettez-le sur le chat en ligne pour nous aider à... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous avons des gens ici qui sont très capables, donc c'est le moment de leur poser des questions. Je voulais ajouter un point personnel. Je voulais rappeler aux gens qu'il y a un groupe de paramètres de GTLD créé par la GNSO pour essayer d'engager le choix des consommateurs et du point de vue du programme de GTLD. Et une des choses que ALAC a essayé de faire, c'était de s'assurer que les paramètres ne disent pas seulement « OK, c'est un meilleur choix parce qu'on a une centaine de TLD au lieu d'avoir seulement une vingtaine, hein, mettons ». Mais on veut s'assurer que les paramètres sont aussi... tiennent compte aussi de la popularité du DNS et la possibilité pour cela, c'est que s'il y a une confusion des consommateurs concernant ce GTLD, ça va mener les gens vers des alternatives, vers le Tor, vers donc des médias sociaux, d'autres sites. Et donc c'est quelque chose qu'il faut souligner en termes de l'alternative. Et je vais maintenant en revenir un petit peu à mon époque de UUCP et cette histoire des routeurs Oignon m'a rappelé un petit peu à nos recherches au début lorsqu'on commençait à travailler sur les TLD de premier niveau. Je voudrais voir si on peut continuer à développer cette discussion. Donc, j'ai demandé à des gens du projet de Tor, d'Igars Bruin, de présenter une discussion plus étendue lors de la prochaine réunion. Et on peut demander à un groupe d'étudier les DNS alternatifs. Et peut-être que AtLarge peut publier des informations là-dessus. Merci. Donc, comme président de cette réunion, c'est Evan qui reprend la parole. Nous avons ici vraiment des gens qui sont vraiment des experts dans ce domaine. Et je vois Glenn, par exemple. Donc, on peut leur demander de venir nous voir pour créer ce groupe. Glenn, allez-y. Glenn McKnight, je voulais juste reprendre ce que Garth a dit Evan et moi, nous allons être à la réunion du FTI à Toronto au mois de juin et au mois d'octobre aussi. Et donc, pour nous, c'est une très bonne discussion. J'aimerais faciliter au mois d'octobre et au mois de juin au Canada ce type de discussion. Donc, venez me voir, venez voir Evan et on va en parler un petit peu plus pour mettre cela en place. Merci. Il nous reste 10 minutes et je vois des gens ici qui veulent prendre la parole. Donc, Eduardo et ensuite, monsieur. Eduardo, je serai curieux, j'ai entendu parler des Tor auparavant. Donc, si j'utilise un navigateur Tor, je peux vraiment naviguer sur Internet. Mais la seule chose, c'est que personne ne va savoir d'où je viens. C'est ça? C'est ce qu'est le Tor, hein, le navigateur Tor. Nous avons des participants à distance. Oui. Oui, dit-il. Excusez-moi. Monsieur le Président, est-ce que je peux reprendre ici? Donc, si j'utilise un navigateur de type Tor pour naviguer sur Internet, et de quel espace alternatif on parle? Ça veut dire que je peux atteindre cet espace alternatif avec mon navigateur? L'espace est séparé du concept de Tor. C'est un système, le système alternatif qu'il y a est un système que qu'on ne peut pas atteindre à travers un DNS. On peut le faire d'autres façons. Le Tor permet aux gens. Donc, pour finir, on parle de deux choses. Le Tor est une chose et l'espace alternatif est autre chose. Oui, de l'article 19 et CUC. Il y a deux points qui pourraient nous intéresser. Une chose est qu'il y a d'autres raisons d'utiliser les adresses ONION. C'est la résilience, le texte qui peut être fait dans le réseau Tor. Donc, c'est une raison aussi, pas seulement pour la censure. Ensuite, ce qui est peut-être une des choses les plus intéressantes concernant le système de domaine alternatif, c'est que on peut interagir. Et je voudrais attirer votre attention sur un projet Tor dans le web qui permet d'atteindre des adresses ONION à travers un proxy. Cela peut être une façon de mettre en de relier certains domaines. Est-ce que vous pouvez de nouveau mettre ce lien sur la salle Adobe? Bien, merci. Nous en sommes presque à la fin de notre session. Oui, Dave, allez-y. Si vous allez créer ce groupe, vous allez peut-être vouloir Dave, nous avons de gros problèmes pour vous comprendre. Vous parlez de la recommandation de RSEC, c'est ça? La recommandation SS009? Oui, en tout cas, il me semble que ça nous permettrait d'identifier les principaux problèmes, d'identifier 5 différentes classe de nom d'espace alternatif. Et nous parlons ici de système de nom commercial, de système de nom politique, etc. Ce sera peut-être donc une manière utile, une technologie utile pour revisiter et voir les nouveaux problèmes et si ces problèmes continuent à apparaître. Voilà, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, et c'est peut-être la façon de conclure ici cette session, lorsque l'on parle de système alternatif, de non alternatif, je me demande ce que l'on va sacrifier ici. Il faut voir dans quelle mesure le DNS est intégré et la façon dont ces applications vont se comporter. Et nous-mêmes aussi. Et donc, le problème et c'est que je pense que nous devons analyser la scalabilité versus le contrôle du système. Et l'autre problème, c'est les défaillances et la capacité à continuer. Dans un environnement de ce type, si vous voulez contrôler l'évolution et aller au-delà d'un système de contrôle tel qu'il existe actuellement, c'est important pour beaucoup de gens, ce système, et la balkanisation versus on a un scénario dans lequel on aurait un TLD, des TLD bloqués et c'est une situation dans laquelle on va répondre et je pense que l'autre aspect dont Garth a parlé, je ne pense pas que vous ayez oublié dans cette discussion de parler de la transparence de l'espace du nom et du système de bureau d'enregistrement. Bien, merci beaucoup Dave, bonsoir. Et Garth, vous pouvez conclure si vous voulez, oui. J'aimerais continuer cette discussion dans des réunions futures. Et donc, bien, merci à tous, dit Evan Lebovitch. J'espère que pour vous, ça a été une source d'information, cette session. Ça l'a été pour moi. Bien, merci beaucoup. Et donc, bonne suite de conférence. Et une dernière chose, je voudrais remercier les interprètes qui sont dans la salle et qui, au fond de la salle, et qui ont souffert. C'est un grand honneur de savoir qu'ALAC est donc un service d'interprétariat et le GAC a aussi un service d'interprétariat, mais je crois qu'on était les premiers à en avoir un. Et donc, les personnes qui sont là-bas au coin et qui est donc le personnel d'ICANN qui a fait tout son possible et qui ont écrit des petits mots à notes, qui ont suivi, essayé d'arranger le projecteur, etc. Donc, merci à vous aussi. Et les personnes qui s'occupent de l'audio aussi, les techniciens. Donc, bravo. Merci à tous. Il y a des autocollants de Thor au fond de la salle, si ça vous intéresse.
Thank you, everyone. The meeting has been adjourned.